Santé Beaujolais d'Ombes.
L'émission de santé du territoire.
100.9 Calade.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une heure d'émission pour échanger sur l'actualité médicale de notre territoire. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur www.radiocalade.fr, mais également sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Radio Calade ou de la page de la CPTS Beaujolais d'Ombes. Cette émission est préparée par la communauté professionnelle territoriale de santé Beaujolais d'Ombes. Connue sous le sigle CPTS, nous réunissons les professionnels de santé libéraux de chacun de nos territoires français. Pour notre communauté, nous travaillons en partenariat avec les établissements de soins comme l'hôpital Nord-Ouest et la Polyclinique du Beaujolais, mais également les EHPAD, les soins à domicile, pour mettre en place des actions nous permettant de communiquer ensemble autour de projets communs et spécifiques à notre territoire. Cette définition très simple vous permet de vous donner une première lecture de la loi de modernisation de santé et de la loi Ma Santé 2022. Au fil de nos émissions, vous pourrez également découvrir les nombreuses actions que nous mettons en place. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à l'accident vasculaire cérébral et au sevrage tabagique pour la partie prévention. Le 29 octobre a eu lieu la journée mondiale de l'AVC. Dénommée dans le langage courant « attaque » ou « hémiplégie » pour ses conséquences qu'elle peut laisser par des problèmes de commande motrice, l'accident vasculaire cérébral touche une personne toutes les 4 minutes. Le nombre de nouveaux cas par an sur notre territoire national est de 140 000 personnes environ. Même si tous les AVC n'ont pas la même sévérité, ils sont la première cause de handicap moteur acquis à l'âge adulte, la deuxième cause de démence et la troisième cause de mortalité. L'infarctus n'est donc pas une propriété du cœur. On peut faire son infarctus dans le cerveau avec une artère qui se bouche ou à l'inverse chez 15% de ces personnes avec la rupture d'un vaisseau qui entraîne une hémorragie. Deux temps dans cette émission. Nous aborderons, entre autres choses, les questions suivantes. Comment reconnaître les signes d'une crise? Que faire dans ce contexte? La place de la prise en charge? Les risques de récidive? Puis dans un deuxième temps, nous aborderons le sevrage tabagique qui fait partie des risques forts de ces accidents. Pour en parler, Dr Cacmac, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes neurologue à l'hôpital Nord-Ouest et vous avez participé à la mise en place de l'unité neurovasculaire. Madame Poupon-Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes infirmière tabacologue et vous êtes en poste à la CEPAM et plus particulièrement au sevrage tabagique du centre de prévention de la CEPAM de Villefranche-sur-Saône. Nous vous remercions pour votre présence et remercions les directions de l'hôpital Nord-Ouest et de la CEPAM. Pour animer cette émission, notre équipe CPTS avec Alexandra.
Bonjour.
Bonjour. Marie.
Bonjour.
Et aux manettes, Gillian. Bonjour. Ah oui, il nous fait un petit coucou, bien sûr.
Santé Beaujolais d'Ombes.
Thank you.
Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire.
Vous êtes sur Radio Calade 100.9 et vous venez d'écouter Isocan. Docteur, l'AVC, c'est quoi ?
Alors, l'AVC, c'est une maladie qui est très fréquente, comme vous l'avez bien signalé, et qui concerne, par exemple, à l'hôpital de Villefranche, plusieurs centaines de patients par an. Et c'est une maladie aussi qui augmente en termes de fréquence. Il y en a de plus en plus. Ça augmente, on va dire, de presque 5% par an, 2% par an. Ça dépend un peu des années. Donc c'est un gros problème de santé, à la fois une urgence, mais à la fois tout un tas de personnes qui se retrouvent handicapées de façon permanente pour le restant de leur vie, donc avec des conséquences importantes sociales et pour la sécurité sociale également. Donc c'est une maladie qui correspond à un problème de circulation du sang dans le cerveau. Vous l'avez bien expliqué, Monsieur Binder. Donc, dans la plupart des cas, c'est un problème de défaut d'arrivée du sang au cerveau, peut-être 80% des cas environ. Et pour le reste, on va dire à peu près 15%, vous l'avez dit, une artère qui éclate. Et donc, c'est une maladie qui se manifeste brutalement, d'un seul coup. C'est sa caractéristique principale. Elle est soudaine. Tout va bien et d'un seul coup, ça va mal. Et donc il est important de la reconnaître en urgence parce que dans la plupart des cas, il s'agit d'une artère qui s'est bouchée grossièrement et il est important d'intervenir le plus tôt possible pour restaurer la circulation du sang au niveau du cerveau et limiter la destruction du cerveau et limiter le handicap qui va suivre. Et donc ça, c'est une affaire de quelques heures. Voilà. Le meilleur moyen d'intervenir très vite en France, c'est le SAMU. Donc la meilleure chose à faire quand on reconnaît un AVC, soit sur soi-même, soit sur quelqu'un dont on est témoin, c'est de composer le 15.
Et comment justement on reconnaît cet AVC ?
Voilà. Donc la principale caractéristique, encore une fois, c'est la soudaineté des symptômes. Et les symptômes peuvent être les suivants. Le visage qui se tord d'un seul coup, la parole qui se bloque de façon plus ou moins complète avec des gens qui ne peuvent plus parler, plus articuler ou qui ne semblent plus comprendre ce qu'on leur dit. Une difficulté à mobiliser, c'est-à-dire à bouger le bras ou la jambe, ou le bras et la jambe du même côté, avec le visage tordu du même côté, ce qu'on appelle une hémiplégie. Ou dans des cas moins sévères, ça peut être aussi des engourdissements, des fourmillements, qui peuvent parfois être pris pour une mauvaise position. On se dit qu'on a dormi sur le bras et qu'il est un peu engourdi, qu'on verra demain ce qui va se passer. Si ces symptômes sont apparus brutalement, c'est une erreur à ne pas commettre et il faut absolument appeler le 15, même si les symptômes sont peu inquiétants, s'ils se sont installés brutalement.
Et du coup, ça veut dire que quand on dit engourdissement, c'est quand on dort par exemple sur son bras, au bout de quelques minutes, ça disparaît. Là, ça veut dire que ça ne disparaît pas en fait.
Alors effectivement, très souvent, ça ne disparaît pas, mais malheureusement, des fois, ça disparaît. Et donc, c'est encore moins inquiétant pour le patient qui, parfois, hésite à solliciter le médecin, ne veut pas déranger, n'appelle pas le SAMU, va se coucher. Et les choses, donc, peuvent s'aggraver dans les heures qui suivent, après s'être initialement amélioré, ce qui peut rassurer à tort. Donc, en somme, si les choses sont apparues brutalement et qu'elles concernent la moitié du corps, il faut absolument penser à un AVC et solliciter les soins d'urgence, le plus efficace étant le SAMU.
Vous avez dit tout à l'heure que le nombre d'AVC du coup augmentait. Est-ce qu'il y a une raison à cela actuellement ? Est-ce que c'est le vieillissement tout simplement de la population ? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font que cela augmente ?
Tout à fait. Le vieillissement de la population et donc l'allongement de l'espérance de vie, qui est une bonne nouvelle en soi, fait que le système de santé va avoir de plus en plus de victimes d'AVC à soigner, et ce, même si les traitements sont de plus en plus efficaces, hein, ce qui est le cas, on va avoir quand même de plus en plus de personnes à soigner, le vieillissement étant un facteur important.
Et quels sont les autres facteurs, du coup, alors ?
Alors ensuite, il y a effectivement les facteurs de risque d'AVC. Ils sont nombreux. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'AVC peut être soigné en urgence. Grosso modo, vous avez une artère bouchée, on la débouche par différents moyens et le plus vite possible, ce qui restaure votre cerveau. Mais on peut aussi l'éviter par un certain nombre de facteurs de risque qui augmentent le risque d'AVC et qui sont ce qu'on appelle les facteurs modifiables, c'est-à-dire sur lesquels on peut avoir une influence. Il y a l'hypertension, par exemple, qui est une maladie extrêmement fréquente et qui est responsable d'un très grand nombre d'AVC, peut-être 90% des AVC, l'hypertension est impliquée. Et bien souvent, il n'y a pas une seule cause. Par exemple, il y a une autre cause que sont les maladies cardiaques, qui sont très fréquentes et qui sont aussi de plus en plus fréquentes avec l'âge. Donc bien souvent, on a des victimes d'AVC qui ont une maladie cardiaque et de l'hypertension et qui font un AVC à cause de ça. Il y a le tabagisme qu'on va aborder tout à l'heure, le diabète, la sédentarité dont on peut parler, qui est un phénomène social important, le surpoids. Tout ça, ce sont des facteurs modifiables qui pourraient permettre d'éviter un grand nombre d'AVC si on en tenait meilleur compte en prévention dans la population.
Quelles sont les suites après l'AVC ?
Alors, les suites de l'AVC, donc, tout va dépendre de l'étendue des dégâts dans le cerveau. Si les dégâts sont importants, le risque est plus important de rester handicapé et de perdre en autonomie, donc, parce qu'on ne peut plus bouger un bras, on ne peut pas pourvoir à ses besoins corporels quotidiens, on est réduit dans ses déplacements. Une autre conséquence qui est importante, que vous avez bien signalée, c'est que l'AVC est la deuxième cause de « démence », entre guillemets, c'est-à-dire des maladies où on perd la mémoire et l'efficacité cérébrale, parce qu'une partie du cerveau étant mort, les capacités de mémoire et de raisonnement sont altérées. Donc il y a une conséquence qui fait qu'on a également des difficultés de type Alzheimer, on va dire, qui vont survenir après un AVC.
Est-ce que c'est parce qu'on a fait une AVC une fois qu'on peut en faire un autre ou pas ?
Tout à fait. Effectivement, le fait d'avoir été victime d'un AVC une première fois fait qu'il y a un risque de récidive, tout à fait, qui est supérieur à celui des gens qui n'ont jamais fait d'AVC. Et donc, ça nécessite absolument un traitement qui peut être des médicaments. Les médicaments sont absolument nécessaires après un AVC pour diminuer le risque de récidive, mais aussi des traitements sans médicaments, favoriser l'exercice physique, arrêter de fumer, diminuer sa consommation d'alcool, perdre du poids. Tout ça, ce sont aussi des traitements, on va dire, qui ne sont pas des médicaments, mais qui permettent de réduire le risque d'AVC. Les médicaments, ça ne suffit pas, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas si on n'améliore pas le reste.
L'abord préventif est donc très important.
L'abord préventif est très important. On estime que ces 10 facteurs de risque modifiables dont je vous ai cité tout à l'heure, les principaux, sont concernés ou impliqués dans une très grande majorité des AVC. Et donc, si on mettait le paquet sur la prévention, comme on dit, on aurait sûrement beaucoup d'efficacité.
Alors parfois, c'est vrai qu'on voit des quarantenaires, des cinquantenaires faire un AVC. C'est des gens qui étaient généralement peu impliqués dans le parcours de soins, qui allaient voir leur médecin traitant une fois de temps en temps. Est-ce que c'est un aspect qui a pu aussi aggraver une situation déjà qui était pseudo-présente ou qui commençait ?
Alors, c'est possible, effectivement. Alors, les quarantenaires, ils peuvent quand même avoir d'autres maladies. Vous avez des patients jeunes qui ont quand même de l'hypertension, qui ont quand même du diabète, qui fument parfois beaucoup, qui peuvent consommer de l'alcool. Et on peut avoir ce profil-là chez les jeunes victimes d'AVC, mais également des profils de personnes avec un mode de vie plutôt sain, sans surpoids, pas tellement sédentaire, sans hypertension, qui ne fument pas, etc., et qui peuvent faire des AVC. Mais néanmoins, il faut bien retenir, même si ces cas nous frappent davantage parce que c'est pas habituel, il faut bien retenir quand même que quand on est jeune, qu'on n'a pas ces facteurs de risque, qu'on ne fume pas, il y a quand même beaucoup moins de risques de faire un AVC. On estime par exemple qu'une activité physique régulière, alors il y a des définitions dans les études, 3 fois par semaine, 30 minutes, jusqu'à transpirer, etc. Il y a différentes définitions. Ça peut réduire le risque d'AVC de 30%.
C'est énorme.
C'est énorme.
Au niveau de la prise en charge, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'hôpital ? Est-ce que vous pouvez intervenir, vous, en urgence sur...
Tout à fait, tout à fait. Moi, je me consacre aux AVC depuis 2008 à l'hôpital de Villefranche, où on a effectivement créé ce qu'on appelle une unité neurovasculaire qui consiste à accueillir les AVC 24 heures sur 24 en urgence pour réaliser tous les examens nécessaires, y compris l'IRM, y compris le scanner, pour administrer le plus vite possible le traitement qui vise à déboucher les artères, s'il s'agit d'une artère bouchée, ou les autres traitements s'il s'agit d'un autre type d'AVC.
Donc une équipe médicale est vraiment présente.
Une équipe médicale est présente avec H24 depuis avril 2008.
D'accord, donc avec un neurologue et tout le...
Avec un neurologue tous les jours, médicale. H24, une équipe d'infirmières H24, une équipe d'IRM qui est sollicitable H24 depuis 15 ans, bientôt.
Est-ce qu'il y a un temps moyen d'hospitalisation après un AVC ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est des moyennes, donc ça reflète des gens très divers. Alors, une moyenne, on pourrait dire une semaine, 10 jours d'hospitalisation. Parfois, c'est 2 jours, parfois, c'est 3 semaines. Mais la moyenne, on peut dire entre une semaine, quoi.
Et ensuite, c'est un retour à domicile, juste après les...
Là encore, c'est très variable. Ça va dépendre. Si la victime d'AVC est suffisamment autonome pour regagner son domicile, elle va regagner son domicile depuis l'hôpital de Villefranche. Et si ce n'est pas le cas et qu'elle a besoin d'une rééducation très active qui ne peut pas être réalisée à domicile, eh bien, elle va être transférée dans un service de rééducation dont on dispose également à l'hôpital de Villefranche ou aux alentours. On travaille en réseau, avec les différents hôpitaux, soit du groupement, soit même extérieur.
À la sortie de l'hôpital et ou du centre de rééducation, du coup, comment est fait le relais avec les professionnels libéraux ? Par qui ça passe ? Le médecin généraliste ? Qu'est-ce qui est mis en place lors de cette sortie ?
Le relais doit s'appuyer effectivement le plus possible sur le médecin généraliste, mais le médecin généraliste, on sait aussi qu'il a des difficultés. Il est difficile de trouver des médecins généralistes. Et donc, les patients AVC, on les revoit aussi à l'hôpital pour assurer leur suivi jusqu'à ce qu'ils aient récupéré une situation, on va dire, acceptable, satisfaisante, d'insertion dans le parcours de soins, qu'ils sont observants et on s'assure qu'ils soient rentrés à domicile dans de bonnes conditions.
La place de la rééducation dans l'AVC ?
Donc la place de la rééducation, elle est bien sûr extrêmement importante puisque un grand nombre de victimes d'AVC, on peut estimer au moins la moitié, voire dans les formes d'AVC graves, les 3/4 ou plus, gardent des séquelles. Et ces séquelles s'améliorent dans le temps, c'est-à-dire que la cicatrisation du cerveau fait que les symptômes s'améliorent. Mais la rééducation est très importante parce qu'elle permet d'accélérer cette récupération et ça va permettre au patient derrière de rentrer plus vite chez lui parce que c'est quand même des hospitalisations longues quand on y réfléchit. Et donc la rééducation, elle est cruciale au début et ensuite même en entretien un peu tout le temps pour essayer de maintenir les capacités du patient et sa capacité à rester à la maison autonome autant que faire se peut.
Donc effectivement, la place de la kinésithérapie est importante. La place de l'ergothérapie aussi est importante. Je regarde Marie en...
Oui, on s'attelle à d'autres freins en ergothérapie, mais effectivement.
Voilà, et vous êtes une profession qui va pouvoir aussi intervenir sur la réadaptation et la place du domicile et l'adaptation du patient à son domicile.
Tout à fait, en aménagement du logement notamment, on peut faire énormément de choses. Le frein aujourd'hui est que nous ne sommes pas conventionnés par la CEPAM et du coup, on a de nombreux patients qui nous sont orientés effectivement, mais les prises en charge ne suivent pas parce qu'il y a des manques de financement derrière.
Alors vous avez des aides quand même, il y a quand même certaines mutuelles, non qui...
Très peu.
Très peu.
Très peu, aujourd'hui.
Mais c'est
encore.
Vrai que, du coup, la place est quand même importante, puisque vous pouvez, vous avez un intérêt qui est très grand, qui est même primordial pour le maintien à domicile dans sa durée. Donc, parfois, ça vaut le coup d'appeler les bons professionnels pour éviter
Entièrement.
De faire des erreurs.
Je suis totalement d'accord avec vous, Ludovic. C'est vrai que ça devrait se faire de manière plus systématique. Et c'est vrai que les patients chez lesquels on intervient ont un réel confort de vie derrière.
Alors, bien sûr, on parle des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, certainement des orthophonistes aussi, parce que la place...
Exactement, hein, tout à fait. Je confirme que l'ergothérapeute, le kiné, l'orthophoniste sont des personnes très précieuses dans notre service. On a cette offre de soins chez nous et on est vraiment très content de pouvoir en disposer. Et on est très embêté effectivement qu'il n'y ait pas de possibilité d'ergothérapie à domicile. Mais en milieu hospitalier, c'est très important. Les unités neurovasculaires comme la nôtre doivent disposer d'ergothérapie, d'orthophonie et de kinésithérapie quotidiennement, ce qui est le cas.
C'est vrai que l'AVC touche finalement beaucoup d'organes, enfin, en tous les cas beaucoup de muscles. D'ailleurs, certains patients font parfois l'erreur de parler de leur système musculaire.
C'est ça.
C'est pas leur système musculaire qui est en défaut, hein. C'est bien la commande motrice qui est en défaut. On est bien d'accord,
c'est la commande motrice au niveau du cerveau.
Au niveau du cerveau, et c'est pour ça que ça peut, suivant l'aire cérébrale, bah, ça peut toucher effectivement la voix, la compréhension, ça peut toucher effectivement, comme vous le disiez, le système urinaire.
Les symptômes sont très variés, et c'est pour ça que j'insiste sur des symptômes frappant, c'est-à-dire le caractère soudain est très important à retenir. Ce n'est pas quelque chose qui s'installe progressivement. Et si ça s'est installé soudainement, il faut absolument réfléchir à ce diagnostic.
Très bien.
Les infirmières ont aussi leur place, j'imagine,
évidemment,
à domicile, mais bon, comme
évidemment, évidemment, les aides-soignantes également, hein, elles sont extrêmement sollicitées. Elles fournissent beaucoup d'efforts, hein, bien sûr, hein, tout à fait.
100.9 Calade.
De larmes juste au bord de tes lèvres, comme une odeur d'air dans toute la salle. Y'a comme un bruit qui règne dans ta tête. Y'a comme une envie de faire un gros massacre. Besoin de fumer, besoin de me tuer. Oh, spliff. Te vois, puisqu'ici personne ne te croit. La douleur va s'interrompre quand tu écouteras la raison. De retour à la maison, là où nos rêves sortent de prison. Cache et mes gros, vous suivez pas le bon thème. J'apprécie ma vie sans eux. J'suis tout seul dans ma house. Ouais, j'suis tout seul dans ma house. C'est toxique pour mon âme. Ouais, c'est toxique.
Toxique, toxique.
Ouais, c'est toxique.
Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire. Vous êtes sur Radio Calade 100.9 et vous venez d'écouter Toxique de l'ONCC. Nous venons d'aborder l'aspect médical de l'AVC. Les habitudes alimentaires, l'inactivité physique, le tabac sont les parias de notre santé, tels que l'a aussi décrit le docteur Kakmak. Les risques liés au tabac ne sont pas que pulmonaires. Ils sont rénaux, cutanés, cardiovasculaires, entre autres choses. L'arrêt du tabac fait peur par la dépendance qu'elle crée. Elle est parfois repoussée à plus tard, parfois beaucoup, beaucoup plus tard. Et puis, le déclic se fait. Vous pouvez alors vous faire aider efficacement par le centre de prévention de la CEPAM et plus particulièrement avec Dominique Poupon. Dominique, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque l'arrêt du tabac ?
Quand on parle de l'arrêt du tabac, on parle bien sûr de l'arrêt de la consommation de ce produit qui est quand même hautement addictif, hein, puisqu'il y a, quand on parle arrêt du tabac, il faut parler du produit, c'est-à-dire la nicotine qui est dedans, qui du coup, elle, est hautement addictive et qui, quand elle arrive au cerveau, quand on fume, il faut savoir que ça monte en 9 secondes au cerveau et que du coup, ça crée cette sensation, c'est ce qu'on appelle le système de récompense, cette sensation de bien-être, d'apaisement. Et qui malheureusement est quand même de courte durée, ce qui fait que les symptômes de manque apparaissent et du coup la personne refume. Donc il y a cette nicotine et il y a aussi tous les produits donc qui sont évités bien sûr. Je reparlerai après des facteurs de ce facteur évitable, justement modifiable en tout cas, puisqu'il y a quand même 4000 substances toxiques. Alors on parle du plomb, on parle des irritants, mais il y a aussi tous les arômes qui sont quand même faits pour adoucir la fumée pour que les jeunes aillent plus facilement vers le tabagisme, ou les femmes qui peuvent être parfois un peu plus sensibles, les odeurs de la fumée aussi pour que ça gêne moins l'entourage. Donc voilà, et c'est des produits. Il y a aussi donc le gaz carbonique qui lui se fixe sur les globules rouges et il a la propriété de prendre la place de l'oxygène. Donc voilà, c'est ce produit-là dont il est essentiel de se débarrasser. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le sevrage tabagique.
Donc, que se comprenne bien, vous avez parlé de 4000 substances.
Oui.
C'est ce qui est présent dans une cigarette ?
Voilà. Alors, bien sûr, donc, je parlais des métaux lourds. Il y a tous les goudrons. On parle aussi, la fumée, elle est inconstante. C'est une combustion incomplète. Donc, c'est ce qui crée aussi tous ces toxiques, tous ces produits qui sont nocifs pour la santé.
Alors... Moi, j'avale jamais la fumée, je risque rien.
Alors, la fumée s'inhale, hein, elle ne s'avale pas. Et puis, de toute façon, il y a toujours quand même une aspiration. Et les cigarettiers ont travaillé sur le fait que cette fumée soit plus facilement, aille bien loin dans les poumons. Enfin, c'est un produit qui est quand même très travaillé.
Ouais, donc en fait, l'expression, ça le fait pas, quoi.
Je ne peux pas dire ça, effectivement.
Ok. Moi, j'aurais voulu savoir, donc vous êtes tabacologue,
oui.
Qu'est-ce que c'est qu'un tabacologue ?
Alors, en fait, donc, c'est un professionnel de santé qui a été formé pour connaître les produits, comment on arrive à cette dépendance, comment accompagner la personne, connaître les produits aussi pour aider à se sevrer. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un, mais des fumeurs. Il y a ceux, la majorité des personnes arrêtent souvent seules, mais il est légitime de se faire aider. Et c'est aussi, un peu casser ces idées reçues. Les fumeurs souvent arrêtent, reprennent, se sentent en échec, alors que ça fait partie un petit peu du chemin vers la réussite. Donc il y a ceux aussi qui ont des craintes. Alors ça peut être une crainte... de prendre du poids, ça peut être une crainte souvent, ils nous parlent de leur compagne, de leur béquille, de quelqu'un qui a accompagné des moments pas faciles. Donc les fumeurs ont des avantages à fumer, hein. Quand je parlais de cette sensation de bien-être, il y a donc ce moment pour soi, il y a l'habitude, il y a quand c'est associé au café, il y a tout un tas de raisons personnelles. Donc la personne, le tabacologue, elle est là pour connaître l'histoire du fumeur, c'est-à-dire comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il veut faire, quel est ce qui lui semble difficile, qu'est-ce qu'il est en capacité de réaliser, et puis le soutenir dans toutes les démarches, parce que souvent, quand on les écoute, ils ont déjà fait beaucoup, beaucoup d'efforts dont ils ne se sont pas rendus compte et qui sont vraiment à prendre en compte pour continuer ce chemin.
Quelque chose qui est intéressant, finalement, un échec, c'est pas grave.
Alors nous, on parle d'échecs différés, on parle de réussite, qui, à chaque fois qu'il y a eu un essai, c'est une capacité, c'est-à-dire on apprend de ces échecs, hein, pour tout un tas de choses, mais notamment dans le sevrage tabagique, on apprend ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, pourquoi on a recommencé, c'est important aussi, le tabacologue est là pour parler des rechutes, c'est-à-dire les préparer, de préparer les moments qui peuvent être difficiles, quand on est confronté à un conjoint qui fume, ou à la culpabilité qu'il peut y avoir quand une maman attend un bébé et que c'est parfois difficile d'arrêter alors qu'elles ont envie.
Et comment est-ce qu'on peut trouver un tabacologue ?
Alors, un tabacologue, donc on peut en trouver à la caisse primaire d'assurance maladie. Enfin, pour ma part, donc je suis infirmière au centre d'examen de santé de Villefranche, où il y a des examens de prévention en santé. Donc, ils sont ouverts à tout assuré du régime général à partir de 16 ans. Donc, il y a une équipe pluridisciplinaire avec une infirmière, les secrétaires médico-sociales, le médecin. Et du coup, on parle de la santé en général. C'est aussi personnalisé. Et là, les personnes qui veulent parler du tabac, je ne parle pas forcément de sevrage, on peut aussi parler du tabac. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on me dit d'arrêter de fumer ? J'ai déjà essayé. Enfin, voilà, toutes ces questions. Donc, du moment qu'ils ont bénéficié de cet examen en santé, qui est pris en charge par l'assurance maladie, ils peuvent aussi me rencontrer tant qu'ils ont besoin. Et c'est aussi pris en charge par l'assurance maladie.
Alors, comme on est sur le sujet, comment on fait pour vous contacter ?
Alors, soit on va sur amélie.fr, soit on va sur Doctolib, où on tape examen en santé. Soit on peut téléphoner, donc pour le Rhône, en tout cas, au 04 72 65 16 16.
Bien. Et comment se passe une séance quand on vient vous voir, en fait ?
Alors, la séance, c'est tout d'abord une relation, une confiance mutuelle. Et puis, c'est écouter la personne, justement. C'est vraiment l'histoire de cette personne avec ce tabac. Vraiment, toutes les difficultés et puis toutes les joies, je dirais, hein, les avantages, en tout cas, qu'elle a eu à fumer et à pouvoir les transformer, c'est-à-dire ce plaisir, ce bien-être. Comment on peut le transformer, de quelle façon, que ce soit avec le sport, que ce soit avec tout un tas de choses.
Se retrouver du plaisir, mais autrement qu'avec le tabac, quoi.
Voilà, autrement qu'avec le tabac. Et puis, bien sûr, les personnes qui, selon, on va dire, leur intensité de tabagisme, peuvent avoir besoin de traitements qu'on appelle les traitements substitutifs nicotiniques, que je peux prescrire et que les médecins, les kinés, les sages-femmes et les dentistes et les infirmières peuvent prescrire.
Et je crois que c'est remboursé, les substituts sont remboursés, c'est ça ?
Oui, voilà, les substituts, ils sont remboursés à 65% à partir du moment où il y a une ordonnance, même s'ils restent en vente libre, pour les personnes qui ne souhaiteraient pas encore faire le pas. Mais ils sont remboursés, complétés par la mutuelle. Et puis, il y a des dosages différents. Donc, je reviens sur l'histoire de la personne, parce que l'accompagnement sera personnalisé autant en dosage qu'en durée, qu'en soutien. Enfin, voilà, c'est vraiment un petit chemin qu'on fait ensemble pour arriver au sevrage total.
Vous venez de parler du dosage.
Oui.
C'est quelque chose, je crois, qui est très important, parce que finalement, on a parfois peur de dépasser le dosage qui a été initialement prescrit. C'est finalement, d'après les retours que j'ai eus, c'est pas si grave que ça si on est accompagné par un professionnel de santé de dépasser ce seuil.
Alors exactement, c'est vrai que suivant donc l'intensité du tabagisme, on en prescrit ou pas. Quand ils sont prescrits, on essaye d'adapter le dosage, mais si ça dépasse un peu, alors on n'appelle pas ça du surdosage, mais il faut adapter ça. En fait, les symptômes sont comme, je dirais, quand on a trop fumé. Les fumeurs connaissent bien, c'est-à-dire un peu mal à la tête, la bouche pâteuse, plus jamais je fumerai. Enfin, voilà. Et du coup, il suffit simplement de diminuer le dosage. Voilà. Il peut aussi y avoir la nuit, par exemple, si les personnes qui ont un dosage sur 24 heures peuvent faire des rêves un petit peu étranges. Ça arrive, on les prévient, mais du coup, c'est pareil. Il existe des dosages qui s'arrêtent au bout de 16 heures. Et du coup, voilà, il y a tout un tas de réadaptations pour, en fait, le but, c'est que ce sevrage soit le plus confortable possible. S'il faut passer par une diminution, voilà, on suit la personne. En fait, c'est elle qui nous dit ce qu'elle peut faire.
Vous avez parlé d'histoire de vie tout à l'heure.
Oui.
Ça veut dire qu'on peut commencer très tôt de fumer, on le sait tous. Ça a un impact sur l'arrêt?
Alors, oui et non. Enfin, ça dépend des personnes, bien sûr. C'est vrai que souvent, c'est auprès de ses pairs, à l'adolescence, qu'on commence de fumer. Mais il y a de tout. Il y a des personnes qui ont fumé 40 ans et qui arrivent à s'arrêter facilement. D'autres pour qui l'aide est légitime. Et ça, il faut vraiment... c'est vraiment casser les idées reçues. Je veux dire, d'être aidé, c'est pas un problème. Il faut l'accepter. Et puis, c'est cette nicotine qui fait souvent peur. Les gens la pensent dangereuse. Alors que c'est la fumée qui est dangereuse. C'est vraiment ça dont il s'agit. Et du coup, ces traitements, donc, qui sont soit des patchs, qui sont collés sur la peau, vont amener de la nicotine de manière régulière pour éviter les symptômes de manque et bien sûr ne plus avoir cette fumée qui nous embête.
Mais il n'y a pas que les patchs aussi, il y a d'autres, il y a les gommes, il y a plein de choses. Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Est-ce que c'est associé? Comment ça se passe?
Alors, pour les personnes qui ont vraiment besoin, qui fument un paquet, deux paquets, effectivement, on associe des patchs avec des formes orales. Alors, pareil, il y a des gommes à mâcher, des pastilles à sucer qui se prennent selon des protocoles un petit peu différents. Et c'est vrai que c'est reconnu, ça a été étudié que d'associer le patch et les formes orales augmentait quand même les chances de réussite.
Bien insister qu'il y a quand même un mode d'emploi. Pour toutes ces les gommes à mâcher, faut pas avaler un bonbon qui doit être sucé, par exemple.
Alors oui, c'est vrai que des fois c'est mal expliqué parce que c'est pour ça que c'est intéressant d'être suivi par un professionnel, parce qu'une gomme à mâcher se mâche pendant 20 ou 30 minutes, après ça se crache. C'est vrai que si on la mâche tout le temps comme un chewing-gum par exemple, ça peut amener des petits désagréments au niveau de l'arrière-gorge, d'une salive un peu irritante. Donc c'est vrai que les gens se disent je n'en veux plus. Donc voilà, c'est important, ça, on explique tout ça, vraiment comment ça doit se prendre, les effets bénéfiques que ça a. Ça aide aussi les personnes qui ont des craintes de prendre du poids, d'avoir des substituts, ça limite quand même ce grignotage parce que fumer a eu quand même une action coupe-faim. Et puis on parle aussi des désagréments. En fait, c'est une discussion, un échange qui se fait avec la personne qu'on voit quand elle le souhaite, régulièrement, un peu de manière éloignée, voilà.
Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent vous voir et qui se demandent si c'est bien de vapoter? Qu'est-ce que vous leur dites?
Alors oui, c'est vrai que c'est un sujet. Alors effectivement, au niveau du vapotage, il y a beaucoup de scientifiques qui ont des avis différents sur lesquels je vais... pas revenir. Les personnes, en tout cas, qui utilisent, je les laisse utiliser. C'est un moyen... qui est reconnu comme un moyen d'aide. Bien sûr, à long terme, c'est un produit qui est jeune et du coup, on ne connaît pas tout sur ce produit. Mais en tout cas, on sait qu'il est quand même moins... comment dire? Il n'y a pas cette fumée. Donc voilà, c'est quand même un plus.
Pourtant, quand on voit les gens vapoter, on voit que ça crée une sorte de fumée.
Alors oui, ça fait des volutes, effectivement, c'est de la vapeur, mais c'est vrai que les vapoteurs savent très bien jouer avec les produits qu'ils mettent dedans, sur soit avoir un effet un peu plus important au niveau de la gorge, que le fumeur aime bien, soit au contraire faire des belles bouffées. Donc ça, c'est eux qui jouent avec ça.
D'accord.
Moi, j'avais une question aussi. Donc, il y a bien sûr tous les substituts nicotiniques et il y a aussi toutes les thérapies alternatives maintenant dont on entend parler, telles l'hypnose, etc. Est-ce que vous avez un avis, des retours sur la question?
Alors là, les gens sont libres, hein, puisque moi, en tant qu'infirmière, je prescris bien sûr les traitements qui sont validés. Mais c'est vrai que je dirais qu'à partir du moment où la personne est aidée par telle ou telle thérapie, que ce soit l'hypnothérapie, l'acupuncture, le psychologue, voilà, tous les chiropracteurs, enfin, que ce soit le yoga, enfin, tout est bon à prendre du moment que ça satisfait la personne et que ça l'aide à avancer dans son sevrage.
Oui, c'est tout un processus. Donc, à partir du moment où on met des choses autour, ça permet d'avancer petit à petit.
Voilà, et c'est pour ça qu'il n'y a pas un fumeur, mais des fumeurs et des tas de possibilités qu'on discute ensemble.
Finalement, il faut aller rechercher le plaisir ailleurs.
Voilà, c'est ça. Il faut aller rechercher ce plaisir ailleurs.
Et pour aller chercher ce plaisir ailleurs, est-ce qu'il y a un moment ? Parce qu'on nous dit souvent qu'il faut attendre le bon moment. Est-ce que vous avez ces retours ?
Alors, oui, on parle beaucoup, les personnes parlent beaucoup de la volonté. Alors, c'est vrai que la volonté, oui, mais il faut se rappeler que c'est une addiction et que seule, parfois, la volonté ne permet pas d'y remédier, puisqu'une addiction, les personnes fument alors qu'elles savent très bien que c'est mauvais à la santé. Elles vont courir aller chercher un paquet le dimanche soir loin parce que c'est un besoin. Donc, voilà. Le moment, c'est la personne qui le choisit. Et nous, on est là pour mettre en avant les capacités qu'elle a eues à arrêter, les ressources qu'elle a, l'entourage, enfin, tout ce qui peut être bénéfique pour l'amener à ce sevrage, parce qu'il le souhaite quand même.
Votre suivi, généralement, il dure combien de temps ? On peut être accompagné longtemps par un tabacologue ou c'est vraiment ponctuel et limité dans le temps ?
Alors, à mon niveau, c'est du moment que les gens le souhaitent, ils peuvent venir me voir ou en contact téléphonique et je peux avoir des personnes qui viennent me dire que maintenant, c'est, ou par mail, tout va bien, ils ont arrêté et voilà, et je reste à leur disposition.
Les chances de succès ?
Alors, les chances de succès, je ne les connais pas toujours parce qu'il y a ceux aussi qui ne me le disent pas. Mais c'est vrai que c'est très variable. Et moi, je n'ai que les retours qu'on me donne, en tout cas à la CPAM. C'est vrai qu'il y a une petite, une diminution chez les 18-54 ans du tabagisme. Mais il y a une stagnation au niveau des 55-74.
Vous voulez dire que les plus jeunes fument moins qu'avant ?
Voilà, alors ça a tendance à diminuer. Par contre, il y a un produit aussi qui est sorti, le PUF. C'est une vapoteuse, on va dire, jetable. Et donc voilà, il y a aussi des nouveaux produits. Mais ça, c'est l'adolescence. C'est voilà, une autre question des essais qu'ils peuvent faire.
Et justement, par rapport à ces retours, est-ce que vous avez des retours de ce fameux POF ? Enfin...
Alors, à mon niveau, je n'ai pas de retour parce que les personnes qui viennent, donc c'est à partir de 16 ans, voilà.
D'accord, donc du coup, ok.
C'est un produit addictif également ? Alors, moi, je ne connais pas du tout, personnellement.
C'est jetable, ça a plein de goûts rigolos et voilà. Les ados adorent.
C'est coloré, ça ressemble à un stylo, c'est léger, donc voilà. Mais du moment qu'il y a de la nicotine dedans...
D'accord, oui, c'était ma question, savoir s'il y avait de la nicotine dedans, effectivement.
Voilà. Ça s'achète en bureau de tabac aussi ?
Oui, ça s'achète, voilà, c'est assez facilement. Ça se trouve assez facilement.
Par rapport à la alors c'est passé de mode, mais on entendait souvent dire que la pipe finalement était moins toxique que la cigarette.
Alors, en termes de toxicité, elle est plus toxique, je dirais, qu'une bouffée, même si c'est inconstant. La pipe est beaucoup, il me semble que c'est 3-4 fois plus toxique d'utiliser une cigarette industrielle. La cigarette roulée aussi est plus toxique.
Et la chicha ?
Alors, la chicha, c'est au moins 40 fois plus toxique qu'une cigarette industrielle. C'est énorme, oui.
C'est un paquet.
Voilà,
une fois, quoi.
Comment vous allez déterminer qu'une personne est vraiment toxique au tabac ? Est-ce que c'est la cigarette du matin? Est-ce que...
Alors oui, on a un test qu'on utilise, un petit questionnaire qui s'appelle Fagerström, qui permet, qui est bien connu de tous les tabacologues et des professionnels de santé, qui en quelques questions permet de voir la dépendance à la nicotine, c'est-à-dire elle se voit surtout la durée entre le réveil et la première cigarette. En fait, plus elle est courte, plus ça veut dire qu'après une nuit, on a besoin de cette substance. Et puis le nombre de cigarettes, effectivement, plus elle est importante, plus ça explique que le besoin de fumer.
Et le sevrage peut être plus compliqué?
Alors, il y a plutôt l'histoire du tabac, je dirais, qui amène des éléments et qui complique ce sevrage, que parfois on peut être surpris, justement, on peut penser que le chemin sera long et il ne l'est pas. Et pour d'autres personnes qui ont finalement que quelques cigarettes, ça peut être plus difficile. Donc c'est très personnel, en fait, ce sevrage.
Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, il peut y avoir eu plusieurs échecs, mais ça permet d'apprendre et du coup que le suivant soit le bon, quoi.
Voilà, c'est ça. Ils ont appris beaucoup de choses en discutant. Justement, c'est l'intérêt de cet échange, c'est que finalement, ils ont appris qu'ils pouvaient. Ils ont appris à quel moment ils ont repris, pourquoi, qu'est-ce qui a fait. Et les fumeurs se connaissent très bien, en fait, et ils sont capables d'expliquer vraiment tout leur parcours et toutes leurs capacités. Enfin, c'est très intéressant comme échange, vraiment.
D'où l'utilité et l'importance de se faire accompagner. Je crois qu'on l'aura suffisamment dit dans ce temps d'émission.
Oui.
Vous pouvez redonner le numéro de téléphone.
Oui, alors je vais redonner le numéro de téléphone qui est donc le 04 74 72 16 16. J'ai dû faire petite.
Alors, redites-le encore une fois.
04 74 72 16 16.
Et vous nous avez dit qu'on pouvait également passer avec Doctolib.
Oui, soit par Doctolib, soit par amélie.fr. Je vais rectifier, c'est 04 72 65 16 16.
Voilà, encore une fois, comme ça on sera sûr.
04 72 65 16 16.
Voilà, c'était le bon numéro de téléphone.
100.9 Galade.
Yeah, yeah, yeah. Shout out to Lady Lady. Now I know, there she go, pay up.
I love you, I love you, I love you, until I love you, I love you, I love you,
until I find a way,
words I know, that you,
until I find a way. She wasn't Indian, yeah. But now she only.
sweat dies on me. Yeah. I swear this is me playing saxophone, but my saxophone was left at home, so I just got this. I said I swear it dies on me.
Santé Beaujolais d'Ombe, l'émission de santé du territoire.
Vous êtes sur Radio Calade 100.9 et vous venez d'écouter Navajo de Maseko. Merci docteur, merci Madame Poupon pour nous avoir présenté de façon très claire l'AVC et l'arrêt du tabac. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission donc sur www.radiocalade.fr. Nous retrouver également sur les réseaux sociaux. Docteur, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Madame Poupon, merci.
Merci.
Nous, à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous, même heure, même endroit, pour notre émission du mois prochain. Au revoir.
Santé Beaujolais d'Ombe, l'émission de santé du territoire.
Santé Beaujolais d'Ombe.